Nous allons lire un texte qui devrait faire écho à ce que nous venons de chanter ensemble et à cet appel que vous venez d'entendre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3 et versets 8 et 9. Deuxième lettre de l'apôtre Pierre, envoyée à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la sienne. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. J'aimerais invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette parole que nous allons méditer maintenant. Si vous voulez bien vous incliner avec moi et nous réclamons de Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce qu'elle peut nous enseigner aujourd'hui encore. Nous voulons être sensibles à ta voix, nous voulons comprendre ce que tu dis, comprendre le langage que tu as utilisé et surtout à faire un acte de foi. Et saisir ce qui est saisissable cet après-midi encore. Merci pour ces chants qui disposent nos cœurs, qui nous préparent à écouter ta parole. Je te prie de bénir abondamment tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit maintenant, afin qu'en quittant ce lieu, chacun puisse dire que l'Éternel Dieu était dans ce lieu, qu'il était là, qu'il a exaucé parce qu'il a entendu la requête, il a entendu la prière secrète et il aura fait du bien. Merci d'étendre ta main. Merci d'agir, Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, et je vous redis d'une autre manière ce qui est dit là. Pourquoi tarder encore ? À prendre la main qu'il nous tend, à saisir la main qu'il nous tend. L'exhortation de l'apôtre Pierre s'adresse à visiblement tous ceux qui douteraient encore de Dieu. Est-il possible ? Que quelqu'un s'étonne en se disant « ça fait si longtemps que l'on nous dit que Jésus revient, on est quand même en 2015. Hein » Eh oui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'en 2014, je patientais, mais j'ai décidé en 2015, je ne patiente plus. Il aurait dû arriver, il aurait dû être là. Certains se sont même moqués, c'est l'apôtre Pierre qui le dit d'ailleurs dans les quelques versets qui précèdent. Il dira ceci, « Il viendra un temps où beaucoup de moqueurs se lèveront et ils regarderont les chrétiens bien en face en leur disant, « Eh, où est la promesse de son avènement ?» Depuis le temps que vous en parlez, ça fait plus de 2000 ans. À l'époque, c'était certes depuis moins longtemps, mais tout de même, nous, ça fait bien des années, des millénaires que l'on dit que Jésus revient. Et ainsi, tout le message de l'Évangile, qui n'est autre qu'une vérité, pourrait s'effondrer si Jésus ne revenait pas. Parce qu'on aurait annoncé, on aurait enseigné quelque chose qui n'arriverait jamais. Ce serait un mensonge. Et s'il ne revient pas, alors tout ce qui a été dit, on peut en douter, forcément. On peut s'interroger, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai ? Alors, cette exhortation de l'apôtre Pierre, quand il dit, le Seigneur ne tarde pas, ne dites pas où est la promesse de son avènement. Ne dites pas, hey, ça fait longtemps, il aurait déjà dû être là. Il ne le fait pas autrement que par patience. Il use de patience. Il use de patience envers chacun, simplement parce que son amour infini le pousse à attendre encore. Si Jésus n'est pas revenu encore, c'est parce que vous êtes perdus. Si Jésus n'est pas déjà revenu chercher l'Église et les siens, c'est parce que vous êtes en dehors de l'Église. Et si vous échappez à cet appel, si vous ne saisissez pas cet appel, qu'est-ce qui vous reste ? L'enfer, la perdition éternelle. Et ça, Dieu ne le veut pas. Alors il use de patience et il vous donne l'occasion, cet après-midi encore, de saisir la main tendue. Saisissez la main qu'il vous tend. C'est une main de grâce, c'est une main bénie. Alors, de la part de Dieu, s'il use de patience, et il faut reconnaître que le monde ne va pas forcément très bien, s'il use de patience, il n'empêche que ce n'est pas de l'indécision de sa part, n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus de l'inconscience, ce n'est pas un moment d'égarement, mais c'est tout simplement de la compassion. Il vous aime tellement, il voudrait tellement vous bénir, il voudrait tellement vous toucher, il voudrait tellement que vous changiez de camp et que vous soyez sauvés pour toujours. Il vous a préparé une place là-haut dans le ciel. Et si vous ne prenez pas cette place-là, elle restera vide pour l'éternité. Personne ne va occuper cette place-là. Personne ne prendra votre place. Vous ne prendrez jamais la place d'un autre. Mais il vous a préparé une place là-haut dans le ciel. Quelquefois, on peut se poser la question, pourquoi répondre, pourquoi tarder à répondre à un appel que Dieu nous lance? J'y vois plusieurs raisons, certainement. Peut-être que la première, en tout cas l'une d'entre elles, serait que l'on soit à ce point aveugle au danger qui nous guette, que l'on tarde. On se dit « Oh, j'ai le temps, j'ai encore le temps de me décider, j'ai encore le temps de choisir. Rendez-vous compte, je suis jeune, j'ai le temps. » Je parle pour moi, hein. Je suis jeune, j'ai le temps. On verra dans 20 ans, on verra dans 40 ans, on verra dans 60 ans. On verra quand je serai vieux. Et les vieux vous disent « Attendez, ça vient très vite. » Ils vous disent « Faites attention, le temps passe si vite. » D'ailleurs, je le disais ce matin pour ceux qui étaient ici, mais est-ce que vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps que cela, c'était déjà un 2, 3, 4 janvier, et vous aviez pris de bonnes résolutions, c'était juste il y a un an, ou juste peut-être il y a 5 ans, ou peut-être même il y a 10 ans. Et on y est à nouveau, au temps des résolutions, au temps où l'on va prendre des résolutions pour l'année qui vient. Le temps passe si vite, le temps passe tellement vite. Je suis étonné de voir un homme qui a tardé, alors que Dieu l'invitait à quitter l'endroit où il se trouvait, parce que c'était un endroit destiné à être détruit littéralement. Et on ne comprend pas pourquoi il tarde, on ne comprend pas pourquoi il tergiverse et pourquoi il ne se décide pas. Cet homme, vous en avez entendu parler forcément, cet homme s'appelle Lot. Et cet homme a vécu dans une ville qui, dans une région où deux villes sont restées très connues, Sodome et Gomorre. On a tous entendu parler de Sodome et Gomorre. Et dans cette ville habitait Lot. Lot était un parent d'Abraham. Et ce jeune homme était arrivé là, non pas par hasard, mais précisément par choix. Mais un choix certainement pas calculé, ou en tous les cas pas bien pesé, pas bien mesuré. Il avait regardé de loin alors qu'il était dans les montagnes avec son oncle et que manifestement il fallait qu'ils se séparent. Chacun devait faire sa vie et si vous êtes bien à la maison un jour ou l'autre, il faudra faire votre vie, forcément. Ce qui veut dire qu'en grandissant, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et ceci étant, Lot a regardé de loin une plaine qui s'ouvrait à l'horizon. Et il a imaginé que cette plaine serait certainement un bon endroit pour y vivre. Alors il a proposé à son oncle, qui lui avait offert le choix, de prendre la plaine pour lui et de laisser la montagne à son oncle. Lot va descendre en direction de la vallée. La Bible dira qu'à ses yeux, c'était comme un jardin luxuriant, c'était fabuleux, c'était le paradis, c'était comme un jardin d'Éden, c'était le paradis. Combien de fois certaines personnes ont changé de vie, changé de pays, changé de travail, et quand vous les avez revus, vous leur avez posé la question « Alors, comment c'est ?» C'est le rêve, c'est le paradis. Et puis le paradis, quelquefois, se transforme en enfer, un jour ou l'autre. C'est pas si rose que ça, c'est pas si agréable que cela, c'est pas si beau que cela. On pensait que c'était tellement beau, on l'a vu de loin, le paysage était magnifique. Mais à l'usage, ce n'est pas toujours pareil. Et à l'usage, manifestement, ça s'est compliqué drôlement pour Lot, parce qu'il s'est trouvé dans un endroit où les gens ne connaissaient rien de Dieu, mais absolument rien, ou en tous les cas, ils n'en voulaient pas. Et poussés par leur instinct naturel, ils ont commencé à vivre de violence, de débauche. Et dans un contexte comme ça, il suffit que vous ayez une âme un peu plus pure, un cœur un peu plus noble, je ne sais pas, des sentiments un peu plus hauts, un peu plus élevés, vous avez l'impression de vivre très mal. Vous ne voulez pas vous salir et vous vivez dans une poubelle. Comment vous voulez faire? Et au bout d'un moment, il s'est senti très mal à l'aise. La Bible dit qu'il tourmentait son âme. jour et nuit, à cause de ce qu'il voyait, à cause de ce qu'il entendait. J'ai un ami comme cela qui a vécu pendant des années un enfer. Sa vie était un enfer, c'était très compliqué pour différentes raisons dont il n'était pas d'ailleurs innocent. Il avait fait des mauvais choix, il avait pris des mauvaises décisions et ça avait véritablement mis une situation très tendue, très tendue. Et un beau jour, plutôt un beau matin, à mon avis, ce n'était pas un beau matin, c'était plutôt un mauvais matin, il s'est réveillé, il a ouvert les yeux et il a dit maintenant, ça suffit, j'arrête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plaqué sa famille, il est parti. Il a dit, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de me faire enguirlander tout le temps, j'en ai marre de subir, ça fait tant de temps, rien ne s'arrange, je pars. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il s'est dit comme cela, je vais changer, ça ira mieux. Mais finalement, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, dans une mauvaise passe, dans une mauvaise situation. Et il n'était pas innocent à cela, il était un peu coupable, un peu responsable tout de même. C'est terrible de se trouver devant des choix comme cela, où il n'y a pas d'autre alternative, pense-t-on. Se dit qu'il n'y a pas d'autre choix, ce n'est pas possible. Mais quelquefois, ce n'est pas si facile de tout abandonner, de tout lâcher. Alors Dieu a regardé du haut du ciel et il a vu ces villes de Sodome et de Gomorre et il a pris du temps. Il a pris du temps. Et à un moment donné, il a dit stop, on arrête. Stop, on ne va pas plus loin. Alors il a envoyé des anges pour s'approcher de cette ville, pour vérifier si les choses étaient bien telles qu'il les avait entendues jusqu'au ciel. Et quand les anges entrent dans cette ville de Sodome et Gomorre, je ne sais pas si c'était la Gay Pride, mais ça pouvait ressembler à quelque chose comme ça. Dès qu'on a vu ces hommes arriver, on ne savait pas que c'était des anges, évidemment, Lot se trouvait à la porte de la ville. Et dès qu'il a vu rentrer ces deux hommes ici, il s'est dit, la nuit va mal se passer pour eux. Ça va être une catastrophe. On va leur mettre la main dessus, on va certainement les violer. Donc il a pris ces hommes et il les a, sans dire exactement le risque, il leur a dit, écoutez, venez à la maison, venez tranquillement à la maison. Et eux ont dit, non, on veut passer la nuit dehors. Et il a insisté en disant, non, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas rester dehors. Venez chez moi, vous serez tranquille, vous serez bien. On va passer une bonne soirée. Ne restez pas là. Lui, il savait le danger. Mais curieusement, il vivait dans ce danger permanent. Et ça ne l'avait pas fait choisir pour autant. Alors, ces deux anges acceptent l'invitation. Ni une, ni deux. La ville entière. Le bruit a couru que des étrangers étaient arrivés. La ville entière se presse contre la maison de Lot. Tambourine à la porte, veulent défoncer la porte en disant « Laisse sortir ces hommes, laisse-les sortir, nous voulons nous amuser un peu avec eux. » Lot, confus, sortira, refermera la porte derrière lui en disant « Ne faites pas cette infamie, ne faites pas cela. » On imagine ce que ça veut dire, hein, viol, etc. « Ne faites pas cela. » Sodomie, le mot vient de là. Hein. « Ne faites pas cela. » Il va même aller jusqu'à troquer... Il me semble que c'est la nuit la plus épouvantable qu'il a dû vivre. Il était même prêt à sacrifier une de ses filles pour qu'il se calme sur elle plutôt que sur ses hommes. Eux ne voudront pas d'ailleurs. Ils diront non, ce sont les hommes que l'on veut. Et il va y avoir un miracle parce que Lot va être ramené à l'intérieur par des anges qui vont frapper d'aveuglement ces gens-là. Et les anges vont dire à Lot quelque chose de très clair. Un appel très clair. Il faut que tu sortes d'ici. Je vais vous lire ce qu'ils vont lui dire. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Ça, c'est l'avertissement. Quand Lot entend ça, on est en pleine nuit, quand Lot entend ça, il doit plier bagages et s'enfuir. Le feu du ciel va tomber, ça va tout raser, une bombe atomique, ça va tout raser. Tu dois t'enfuir, tu dois t'en aller, tu dois courir le plus rapidement possible. Et Lot tergiverse. Il n'arrive pas à se décider. Assez curieusement, je remarque cela, je l'ai lu combien de fois ce texte, je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant. Et il nous est dit que quand Lot a entendu ça, qu'a fait Lot ? Il est sorti. Je vous rappelle qu'à la porte de la maison, il y avait la ville entière qui voulait mettre la main sur ces hommes-là. Ils ont été frappés d'aveuglement et Lot va sortir de sa maison. Il sort de ce lieu de refuge, si vous voulez, pour aller avertir ses gendres, pour aller avertir ses filles en disant « Il faut vite que l'on s'en aille d'ici ». Il a été préservé. Il a pris un risque insensé en allant vers eux. Mais il a été préservé encore. Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé qu'ils ne reviennent morts, qu'ils ne soient lynchés dehors parce qu'ils n'étaient pas arrivés à leur fin. Dieu l'a gardé. Et quand il va vers ses gendres, vers ses filles, il parut plaisanter à leurs yeux. Quand il a dit « C'est la fin du monde, c'est la fin de la ville, Dieu va détruire la ville », ils vont le regarder en plaisantant en disant « Mais tu rêves, c'est jamais arrivé, pourquoi ça arriverait maintenant ?» L'avertissement de Dieu et la patience de Dieu que l'homme ne comprend pas, que l'homme n'arrive pas à mettre ensemble parce qu'il est aveugle au danger. Il ne voit pas qu'il court un danger imminent et que s'il ne fait pas attention, il va mourir. Et il n'aura pas le temps d'y penser, pas le temps d'y réfléchir. C'est quand même terrible parce qu'il n'a pu convaincre personne. Il vient d'échapper au malheur, il vient de vivre, comme je le disais, la nuit la plus terrible. Il a échappé au malheur et j'ai envie de dire qu'il y est pour rien. Ce n'est pas grâce à lui. Ce n'est pas parce qu'on l'aimait bien qu'on n'a pas rasé la maison. Mais c'est parce que Dieu est intervenu. Dieu a fait un miracle. Maintenant, il faut que tu te décides, Lot. Il faut que tu prennes tes valises, que tu prennes ce qui te reste à la maison, ton épouse, tes enfants, et tu t'en vas. Tu t'en vas. Le texte nous dit, au verset 19, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Il a fallu l'attraper par la main, le bras, parce qu'il tardait. Mais Lot, qu'est-ce qui te passe dans la tête ? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour tarder ? Mais qu'est-ce qui te prend ? On vient de te dire que la maison brûle, on vient de te dire que le raz-de-marée arrive, on vient de te dire qu'il va y avoir un tremblement de terre, c'est imminent, et toi tu tardes. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Peut-être avez-vous tardé jusqu'à ce jour de saisir la main que Dieu vous tendait. Vous avez refusé quand Dieu n'a posé sa main sur votre bras en disant « Allez, viens avec moi ». Vous avez relâché l'étreinte, vous avez relâché votre bras et vous avez dit « Je ne suis pas prêt, pas maintenant, on verra plus tard ». C'est un risque que vous avez pris. Et je ne voudrais pas que vous tardiez davantage. Mais je voudrais vous encourager à prendre cette décision maintenant. Il a fallu le sortir de la ville, hors de la ville, hors du risque, hors de cet endroit souillé, hors de cet endroit coupable. En fait, ça m'amène à comprendre que ce genre de choix, sans Dieu, on ne peut pas le faire. Sans lui, on ne peut pas le faire. Moi, je ne crois pas aux bonnes résolutions en disant « ça y est, je change, ça y est, ma vie sera différente, ça y est, j'ai décidé ». Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que vous retombiez ? Connaissez quelqu'un qui régulièrement arrêtait de fumer ? Mais régulièrement. C'est-à-dire que tous les ans, il devait le faire une ou deux fois. Et quand il arrêtait de fumer, ça se voyait. On m'a rapporté que quand il arrivait au travail, il venait avec une pomme et ou une banane pour le 4 heures. Et régulièrement, il allait faire du footing 3-4 fois par semaine. Le jour où il arrivait au bureau sans sa pomme et sa banane, c'est qu'il avait recommencé à fumer. Et il n'allait plus courir. Et puis 6 mois après, ça lui reprenait. Allez, j'y vais. C'est terrible ça quand même. Alors les bonnes résolutions. Vous ne sortirez pas de votre péché si Dieu ne vous aide pas. Vous ne sortirez pas de vos travers si Dieu ne vous secourt pas. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver et on n'arrive pas à choisir. Heureusement que les anges l'ont précipité hors de la ville et l'ont mis un petit peu plus loin en lui disant, tu vois la petite ville là-bas, Tsoar, file dans la montagne, vas-y, cours. Il a couru comme il a pu et il n'était pas bien loin quand le feu du ciel est tombé et a rasé ces villes. Aujourd'hui, côté sud de la mer Morte, vous avez un endroit très ferreux, très salé et beaucoup de soufre. Et beaucoup d'archéologues s'interrogent en disant « Il s'est passé un cataclysme ici. Ce jugement divin est tombé. Ces villes ont été rasées. C'est reconnu aujourd'hui. C'est la science qui le dit. » Alors, comprenez cet avertissement et réalisez que quelquefois, on aura tardé parce qu'on n'a pas bien vu le danger qui était là. Mais je vous assure, le danger est réel. Ne prenez pas un risque insensé. Un autre homme a pris un risque insensé. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi. Et ce roi s'appelle Agrippa. Un drôle de nom pour un roi, hein? Agrippa. Et lui, il s'agrippait à sa vie, hein? Ça c'est sûr. Il n'avait pas envie d'en changer, ça c'est certain. Et le roi Agrippa a été confronté un jour à un homme qui va le remuer, qui va le secouer, qui va même le déstabiliser. C'est comme un combat de boxe entre deux hommes très engagés. Chacun dans sa lutte. Et cet homme qui va combattre le roi Agrippa, c'est un apôtre, un chrétien, c'est l'apôtre Paul. Paul a été arrêté et on a appelé à César et il va devoir partir de Jérusalem, monter jusqu'à Césarée, aller en direction de Rome. Et avant que le grand voyage ne commence, il va rencontrer un gouverneur qui s'appelle Félix, un autre qui s'appelle Festus et finalement un roi qui s'appelle Agrippa. Et il va répéter plusieurs fois dans le livre des Actes, au chapitre 22, dans le livre des Actes, au chapitre 26, il va répéter son expérience. D'ailleurs, il le dira, à un moment donné, « J'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors que je vivais dans l'égarement, Dieu m'a saisi. Littéralement, une main est arrivée par le haut, m'a attrapé par le haut de la veste, hein, et m'a tiré comme ça vers le haut. » C'est littéralement ça. Donc, il y est pour rien. Mais à un moment donné, il a été arraché à sa vie totalement insensée. Et lorsqu'il rend témoignage au roi Agrippa, il va le dire en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, des croyants, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers midi, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et il va commencer à rendre témoignage, il va expliquer son engagement, sa conversion. Dans le chapitre 22, il précisera, c'est un détail qui n'est pas là, que quand il se retrouva dans la ville de Damas, aveugle pendant plusieurs jours, un chrétien vient lui rendre visite, envoyé par Dieu. Il s'appelle Ananias. Et quand Ananias rentre dans la maison, il lui parlera en ces mots, « Saul, mon frère !» Alors que Saul était connu pour être un persécuteur des chrétiens. Mais il doit prier pour Saul, pour qu'il soit guéri, qu'il recouvre la vue, et surtout pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et il dira ceci, « Saul, mon frère, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et il précisera, « Maintenant, que tardes-tu ? Que tardes-tu ? » L'apôtre Paul vient de vivre l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Je crois qu'il y a dans la vie des expériences extraordinaires, qui sont surnaturelles, si vous voulez, qui sont miraculeuses, qui sont divines. On peut vivre de bons moments. Certainement que tous ceux qui ont été devant cette grande boule à New York qui est descendue le 31 décembre et qui se sont souhaités Happy New Year, certainement qu'ils ont vécu un moment exceptionnel, certainement. Mais quand même, c'est peu de choses face au quotidien qui revient vite, au train-train et aux problèmes et aux difficultés, à la maladie et aux, que sais-je, problèmes matériels et toutes sortes de problèmes. L'apôtre Paul vivait à un rythme effréné, convaincu qu'il avait raison. Et puis un jour, Dieu l'arrête en lui disant « Hé, t'es sur la mauvaise autoroute, t'es pas sur la bonne route, il faut que ça change. » Et là, il a une révélation. Il comprend qui il est, il comprend qui il doit être, il comprend ce qu'il a fait, il comprend ce que Dieu attend de lui. En fait, c'est comme s'il était né de nouveau, c'est exactement ça. C'est comme s'il repartait à zéro, mais avec Jésus comme berger, avec Jésus comme point de départ. C'est comme si maintenant, ses buts, ses motivations étaient totalement différents d'avant. C'est comme si son regard avait changé. C'est comme si ses buts, ses souhaits étaient beaucoup plus élevés qu'avant. C'est comme s'il ne vivait plus pour lui, mais il avait décidé de vivre pour Dieu. Une vie nouvelle, une vie totalement transformée. Et cette vie a fait que il a poursuivi cela jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mort. Et à chaque fois qu'il pourra rendre témoignage, il en parlera. Quelle expérience, quelle belle expérience, quelle magnifique expérience. Alors il raconte cela au roi qui est accompagné de ce fameux gouverneur. Et pour le gouverneur, il semblerait que Paul soit un sacré avocat, un sacré orateur. Mais qu'est-ce qui parle bien ? Alors Festus va s'adresser à Paul en lui disant « Paul, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Pour lui, c'est de la rhétorique. Pour lui, c'est une bataille de mots. Il faut bien l'expliquer, il faut bien le dire. Il faut enrober la chose et vous captiverez l'auditoire avec vous. Et Paul le regarde en lui disant « Non, 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 c'est pas du savoir, c'est plutôt du avoir. Je suis pas en train de vous dire ce que je sais. » Je suis en train de vous parler de ce que j'ai. Pas pareil. Alors, peut-être que vous trouvez que c'est bien dit, mais force de conviction, parce que convaincu, évidemment, parce que persuadé, parce que touché intérieurement. Alors, il va laisser tomber la remarque de cet homme en disant « Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Et là, il s'adresse au roi. Le roi est instruit de ces choses. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Et là, il touche. En garde, on a ferré, on a battu le fer, mais là, il fait une touche. Je sais que tu y crois. La remarque du roi, très surprenante. Il se rétracte. Il fait un pas en arrière, il sort le bouclier et il dit « Oh, du calme, Paul, du calme, du calme. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Prédication parfaite. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Le message a été rendu, l'appel a retenti et ça résonne dans le cœur du roi. Peut-être que vous êtes arrivé à ce point-là. C'est formidable. Mais attention à ce qui vient derrière. Parce que le roi Agrippa est arrivé à ce point-là. Tu me persuaderais d'être chrétien? Si je t'entends, je deviens chrétien maintenant. Si je t'écoute, je m'engage comme tu t'es engagé. Et là, Paul insiste en lui disant, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ses chaînes, puisqu'il était enchaîné, que vous deveniez comme je suis. En fait, le roi est bien au courant de toutes ces choses, évidemment, et il ne fallait pas que ça dure, il ne fallait pas que ça reste ainsi, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et le souci de Paul vis-à-vis du roi Agrippa, c'est, ça se résume à ça, « Ô roi, ne tarde plus, il faut que tu prennes la décision maintenant. » Il faut que tu le fasses maintenant. Tu vas bientôt me persuader. Oui, je veux te persuader. Prends la décision maintenant. Et je voudrais vous persuader cet après-midi. Prenez la décision maintenant. On n'est que le 4 janvier, vous n'avez perdu que 4 jours pour que cette année soit parfaite du 1er janvier au 31 décembre. Prenez la décision maintenant. Prenez la décision maintenant. Qu'est-ce qui a fait que le roi Agrippa a dit non ? Saura pas. Je me dis qu'il a certainement été un petit peu aveugle, sourd au message, pas vraiment, mais aveugle au risque encouru. Parce que derrière cet appel, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le ciel ou alors il y a l'enfer. On a l'impression qu'il ne voit pas l'enfer. On a l'impression qu'il ne saisit pas l'enfer. On a l'impression qu'il ne s'en rend pas bien compte. Mais le risque était trop grand. Le risque était trop grand. L'enfer était trop réel, la condamnation était trop prévisible, il fallait se décider, il ne fallait pas continuer comme ça, il ne fallait pas tarder. Je crois que la vie, elle mérite bien plus que l'enfer, hein. Votre vie, elle vaut bien plus que l'enfer. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tapez sur internet « le jeu n'en vaut pas la chandelle » et vous comprendrez l'explication de ce proverbe très instructif. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On a joué jusqu'à ce que la chandelle arrive au bout et qu'il n'y ait plus rien, et on a tout perdu. Non, ça ne vaut pas le coup. Ne jouez pas votre vie sur un saut d'humeur en disant « oh, j'ai pas envie, je verrai plus tard, non, j'ai d'autres choses à faire ». Ne tardez pas. Il y va de votre âme, il y va de votre éternité. C'est le moment, c'est important, c'est le moment de choisir. Et je voudrais terminer avec à nouveau l'apôtre Paul, parce qu'il m'intéresse. La rencontre de Paul avec Jésus, avec le ressuscité, est fabuleuse. Parce que on comprend que c'est Dieu qui l'a arrêté. Il ne se serait pas arrêté tout seul. Quelquefois, on est tellement emballé dans nos choix, dans notre vie, qu'on ne s'arrête jamais. Aveugle au danger, aveugle au risque. Mais aveugle tout court, c'est comme si vos yeux auraient besoin de s'ouvrir cet après-midi. C'est faisable. Dans le chapitre 22, donc, il y avait un peu plus de détails concernant le témoignage qu'il rendait. Et donc, au chapitre 22, il est bien précisé ceci. Dieu interpelle Paul en disant « Que tardes-tu ? Engage-toi. Que tardes-tu ? Engage-toi. » Par nature, j'ai jamais été un impulsif. Et dans mes décisions, dans mes choix, j'ai toujours pris le temps de réfléchir. Ce qui fait que quand j'ai entendu l'Évangile, je n'ai pas sauté au plafond dès que je l'ai entendu. J'ai écouté. J'ai un frère qui, lui, au contraire, est très spontané. Et le premier jour où il a entendu l'Évangile, il a sauté au plafond, il n'est jamais redescendu. Il a compris. Il a accepté. Mais moi, non. Je me suis dit, je veux comprendre, je veux gratter, je veux savoir, je veux analyser. Mais à un moment donné, il a bien fallu que Dieu me dise, hey, qu'est-ce que tu attends maintenant ? Que tardes-tu ? À trop vouloir comprendre, raisonner, réfléchir, on tarde, on tarde, on tarde. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard à un moment donné. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard. En fait, Paul a eu besoin de cet encouragement pour comprendre que s'il est tout retourné, s'il a été tout chamboulé, s'il a été aveuglé un moment, parce que Dieu était beaucoup plus lumineux qu'il pouvait l'imaginer, et sa vie serait plus lumineuse certainement, on comprend que Dieu, après lui avoir rendu la vue, lui a dit maintenant, il faut foncer. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter, il faut foncer. Et je vous encouragerai à foncer cet après-midi, dans cette nouvelle vie que Dieu vous propose. Elle est belle, la vie avec Dieu. Elle est belle, la vie que Dieu vous propose. Elle sera de toutes les manières. Vous serez surclassé tout au long de votre vie par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas un instant. Je crois qu'on revient plus facilement sur des décisions que sur des engagements. Et c'est facile de décider quelque chose et au bout du compte de dire « Oh non, finalement, je ne vais pas le faire. Hein. Je pense que je vais faire ceci, je pense que je vais faire cela. Oui, tu peux compter sur moi. » Et puis hop, on se désiste. C'est plus facile de revenir, j'insiste, sur des décisions que sur un engagement. Et en fait, derrière le baptême, ce n'était pas qu'une décision, c'était un engagement. Et maintenant que Paul s'était engagé, il a pris la mesure de ce que cela représentait. Et pour lui, hors de question de faire demi-tour. Il vous faut vous engager. Vous engager avec Dieu, parce que Dieu s'est engagé avec vous. Il n'a pas que pris une décision dans le ciel en disant « Il faudrait bien qu'un jour je m'intéresse à lui. Il faudrait bien qu'un jour je vienne m'intéresser à Johan, parce qu'il a quand même besoin. » Il n'a pas fait que ça. Hein. Il est descendu et il a frappé à la porte du cœur de Johan pour que Johan comprenne, saisisse la grâce. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont chrétiens dans ce lieu. C'est la même chose. Dieu n'a pas pris qu'il a une décision dans le ciel en disant « Bon, un jour je vais venir vers toi. » Non, il l'a dit, il l'a fait, il s'est engagé. Jésus meurt à la croix en donnant sa vie et en regardant tous ceux qui sont là. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se moquent. Il y en a qui rient, il y en a qui sont violents, il y en a qui sont muets, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il peut tous les regarder en disant « C'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. » Tout est accompli lorsque Jésus meurt à la croix. Quel privilège vous avez d'entendre ce message. L'apôtre Paul dira dans une de ses lettres, ce sont des versets pêle-mêle, il dira ceci « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Ça fait écho à ce que le prophète Ésaïe avait lui-même dit « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. » Et enfin, dans l'Épître aux Hébreux, il est bien rappelé une dernière chose tellement importante. Il est dit ceci, Hébreux au chapitre 3, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous savez ce qui se passe, et je termine, quand on tarde avec Dieu, on fait des bêtises. Dans le livre de l'Exode, Moïse est parti chercher le contact avec Dieu dans le mont Sinaï. Et il met du temps à revenir, ça a mis 40 jours. Et le texte commence dans Exode chapitre 32, comme Moïse tardait de revenir de la montagne. Alors on a été capable de fabriquer ce qu'on a appelé un veau d'or, on a été capable de tomber dans l'idolâtrie. Quand on tarde avec Dieu, on ouvre des fosses dans lesquelles on tombe. Que Dieu vous garde de tomber encore, mais que vous puissiez saisir sa main parce qu'il a décidé de vous relever à partir de maintenant et il veut vous bénir. Amen. On va prier pendant quelques instants. Seigneur, que ferions-nous et que serions-nous sans toi? Quelle serait notre vie si tu n'étais pas là? Quelle serait notre existence si tu n'étais pas près de nous? Ma prière, c'est que tu étendes ta main et que tu bénisses ceux qui, cet après-midi, ont entendu ce message. Ah, on aurait pu en dire tellement et tu aurais pu le dire certainement d'une autre manière, mais merci de bénir ces quelques mots qui ont été prononcés et surtout que le cœur soit touché. Que l'âme soit atteinte, je t'en prie, que ce soit comme une flèche de délivrance de la part de l'Éternel qui viendra apporter le secours à celui qui est désespéré. Merci de bénir, merci d'agir, merci de te glorifier dans une âme, dans un cœur, dans une vie. Glorifie ton nom, Seigneur, comptons sur toi et nous te bénissons pour ce que tu feras maintenant. Amen.